Écoute.
Bravo.
En direct.
Bravo en passant.
En direct. Avec JC.
En direct.
Et Patricia.
Radio. X.
Ça continue à brasser dans le monde, en Iran, entre autres, encore une fois. Mais là, d'abord, avant de lever le micro de mon ami et chroniqueur Benjamin Tremblay, juste vous dire que moi, je l'ai fait pour Joe Biden. Je vais être obligé de le faire pour Donald Trump. Là. Donald Trump commence à vieillir.
Là. Ah ben là, c'est sûr que l'âge le rattrape. Là, c'est clairement. Là, il y a 79, je pense, Donald.
Ouais, il va avoir 80. Moi, ça fait deux fois là, que je le pogne en train de faire des petits dodos en pleine réunion. Là. C'est pas... c'est pas... Là. T'sais, moi, dans un monde efficace, idéalement, les leaders qui font des guerres partout sur la planète, pas se poser de s'endormir, là.
Ouais,
pendant les meetings.
C'est sûr qu'il y a du monde qui sont plates là, à écouter.
Ouais. je veux bien, mais reste que idéalement, là, oui, quand on fait un meeting là, pour traiter de questions
j'entends
importantes,
ce que tu me dis.
Idéalement, il faudrait que le gars qui prend une décision ne fasse pas un petit nap. Là.
Effectivement, ça serait bien.
En même temps, écoute, ça va avec l'âge, j'imagine. Benjamin Tremblay, 7 jours sur Terre, bonjour.
Salut, JC, merci de me recevoir.
Je suis content que tu ne dormes pas.
Non, ben écoute, c'est intéressant ce que tu mentionnes quand même, parce que pendant la présidence Joe Biden, les républicains étaient très, très forts à parler, du moins dans une aile du Parti républicain qui était plus radicale, à dire qu'on aurait besoin d'un amendement constitutionnel, que peut-être que, comme les juges de la Cour suprême, il devrait avoir un âge obligatoire pour prendre sa retraite pour la présidence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, passé un certain âge, on serait juste plus éligible pour se présenter parce qu'à un moment donné, effectivement, ça devient de la politique gériatrique. Puis là, tu sais, c'était sous Biden, c'était très politique, il y avait beaucoup de gesticulations partisanes là-dessus. Là, maintenant, on voit comme l'exemple parfait, là, comme quoi ça touche les deux parties, puis comme quoi, effectivement, tu sais, qu'on reconnaisse ou pas, qu'on estime ou pas, à tort ou à raison, que Trump est à 100% de ses capacités, on est à même, je pense, tous de reconnaître que c'est un gars très âgé, dans une fonction extraordinairement exigeante. Oui. Donc, la discussion pourrait avoir lieu. Si on l'a pour les juges de la Cour suprême, qui vont présider sur une quinzaine de cas dans l'année, on devrait l'avoir aussi sur la présidence, t'sais.
Ben moi, puis même, tu sais, puis là, écoute, je veux pas t'impliquer dans cette discussion-là. Même moi, je me disais, même pour le vote, moi, à partir de 80, je vais-tu vraiment voter pour moi? Là, je sais pas, même, je trouve que, puis, tu sais, les gens vont dire, ah, tu fais de l'âgisme. Ben on avait la discussion, puis cette réflexion-là m'est venue quand on jasait de, parce que mon collègue Max, il me dit, on devrait mettre le vote à 16 ans. Mais oui, puis non, tu sais, à 16 ans, je sais pas. Puis c'est correct qu'on peut débattre, là. On est dans un pays démocratique, puis on a le droit d'amener des idées. Mais c'est parce que si on a la discussion pour les jeunes, on peut-tu l'avoir pour les vieux? C'est... Puis là, évidemment, je parle de vote, on peut se décoller de ça. Mais du moins pour les positions comme ça d'importance, c'est parce que c'est à 80, tout le monde, on va s'entendre que c'est plus risqué de justement tomber un peu dans le cognitif, des fois. Puis d'ailleurs, dans les dernières semaines, Donald Trump se mêle d'un pays. Là. C'est quasiment un record. Là. Il nomme n'importe quel pays, puis c'est pas le bon pays. Là.
Ben non, puis la semaine passée, il cherchait le nom du président de Taïwan. Il dit « Ouais, je vais parler avec la personne responsable. » Ça, je peux comprendre, mais c'est parce que là, on se retrouve dans une situation où Joe Biden, on avait quand même, il faut faire la nuance, puis tu sais, on ne peut pas s'éterniser là-dessus, mais je trouve que c'est quand même très intéressant comme discussion, parce que Joe Biden, il y avait énormément de contre-pouvoirs, puis c'est surtout, on ne le voyait pas. Il était tellement, je veux dire, sorti complètement de la game.
L'autopène boucané, là.
Ouais, puis on voyait beaucoup ses officiers, si on veut. Là, on voyait Jake Sullivan, on voyait beaucoup son secrétaire d'État, on voyait beaucoup ceux qui entourent le président. Pour ce qui est de Trump, t'as une gang au complet de gens qui sont largement des yes-men, qui acquiescent à tout ce que dit le président. Fait que là, je suis en train de lire en ce moment, là, juste avant qu'on entre en onde, j'ai un article devant moi comme quoi là, Trump est en train d'imposer au département du Trésor d'imprimer des billets de 250 $ avec sa face dessus.
Wow.
Et là, il y a comme personne pour arrêter ces affaires-là. Qui normalement, peut-être que quelqu'un dans l'entourage à Biden aurait dit « Ouais, voilà une élucubration un peu embarrassante de la part du président. On va juste tuer ça sans trop y dire. » Trump, ben, il va insister, il va remplacer du monde à la tête du département jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui le fasse pour vrai. Fait que l'absence de contre-pouvoir pour Trump, c'est quand même une dimension qu'on n'avait pas avec Biden.
Puis on s'est comme habitué. C'est comme ça. Écoute, pour le reste, puis moi, c'est ce qui m'agace un peu là, dans l'actualité présente avec les négociations en Iran, c'est que c'est chaud-froid, 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 tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui. En tout cas, moi, j'ai pas de concret. T'sais, je ne vois pas vraiment d'images, de négociations. Je vois pas de vidéos où on dit, ah, regardez, voici la sortie des négociateurs. On est en train de une autre ronde de négociations. Ouais. Donc, j'ai juste des gens qui viennent à des lutrins pour dire, oui, on négocie. Tu as l'autre pays, l'Iran, donc, en l'occurrence, qui dit, non, on négocie pas. On est proche d'un bord. L'autre dit, pas vraiment. Trump dit qu'il est content. La semaine d'après, il n'est pas content. Là, c'est ça. Là on est rendu. Trump n'est pas satisfait. Ouais, c'est ça.
Trump fait de la gestion d'attente. Trump a vraiment peur de voir les conséquences de la guerre qu'il a déclenchée à être consommée par l'économie. On parle surtout du marché énergétique. Là, en ce moment, il a réussi à largement éviter toute cette logique spéculative-là, là, d'augmentation des prix du pétrole, etc., en contrôlant les attentes. Puis en disant, inquiétez-vous pas, on négocie, on ne retournera pas bombarder, c'est pas dans nos intentions, c'est pas dans notre intérêt, on veut négocier. Alors que la réalité, c'est qu'il n'y a aucune négociation en cours, que les Iraniens veulent rien savoir, puis que les demandes qu'ils mettent de l'avant sont irrecevables par les Américains. Fait que là, ce qu'on a, c'est une espèce d'état d'enlisement où, soyons très clairs, là, bon, moi, c'est ça qui m'intéresse beaucoup ce temps-ci, là, c'est de voir à quel point Israël nuit à tout ça, là, puis à quel point Israël se tient dans le chemin de ce processus de paix-là. Parce que, d'un côté, il y a une réalité absolument impossible à évacuer. Trump, sa survie politique, au point où on en est, elle dépend de la fin de la guerre aussi vite que possible. Netanyahou, c'est l'inverse. Sa survie politique dépend de la poursuite de la guerre. Fait que là, on est en train d'assister à une espèce de contradiction puis de choc frontal entre les intérêts israéliens puis les intérêts américains qui, fondamentalement, sont non seulement incompatibles, ils sont contradictoires. Fait que là, ce qu'on voit, c'est que Trump est de plus en plus embarrassé par la force modératrice que représente Netanyahou dans les négociations. Essayer de l'empêcher de faire des concessions, de l'empêcher d'accepter les promesses de l'Iran, de toujours prendre ça avec un grain de sel. Et là, Trump devient agacé au point où on a des articles qui sont parus cette semaine dans la presse israélienne qui sont complètement lunaires, là, comme quoi Netanyahou, en privé, se plaint et reconnaît à ses conseillers personnels qu'il n'y a plus d'influence sur Trump et que sa capacité à influencer le processus décisionnel aux États-Unis est rendue essentiellement nulle. Après ça, on a su, quelques jours après, que tellement il est exclu des négociations. Tu sais, là, on parle d'un pays qui était dans le cockpit avec les États-Unis, littéralement, à décider où est-ce qu'on s'en va, puis qu'est-ce qu'on fait, puis où on atterrit, puis comment. C'était le copilote des Américains dans cette guerre-là. Là, Netanyahou et Israël se retrouvent non seulement expulsés du cockpit, ils se ramassent dans une soute à bagages en arrière, et il n'y a plus personne qui veut rien leur dire. New York Times, cette semaine, nous a appris en exclusivité que les Israéliens sont tellement tenus en dehors du cycle de négociation par Trump et les États-Unis qu'ils sont obligés d'espionner les Iraniens puis d'utiliser leur service de renseignement pour savoir qu'est-ce qui se passe. Fait que c'est vraiment... Là, c'est non seulement ils ne sont plus dans le cockpit, ils sont obligés d'espionner l'équipage pour savoir quand est-ce qu'on atterrit, à quelle place puis comment. Fait que manifestement, là, t'as la rupture de la relation entre les deux qui est extrêmement nuisible pour Israël. Puis ça, ben, c'est un peu prévisible. T'sais. On a entraîné les États-Unis dans cette guerre-là. Ça, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. La séquence là, des premiers jours, première semaine, c'est Israël qui a vendu des objectifs irréalistes qui étaient d'abord, on va détruire la capacité balistique de l'Iran, empêcher sa capacité de lancer des missiles. Ensuite, on va renverser le régime et surtout, on va essayer de détruire son programme nucléaire. Là, le programme nucléaire est intact. La capacité balistique est intacte. On a su par les services renseignement américains, 90 % des sites de missiles sont encore opérationnels et accessibles. Wow. 70 % des lanceurs de missiles sont opérationnels. Puis t'as 70 % des stocks de missiles, de l'arsenal lui-même, qui est encore accessible aussi. Bon, on découvre que c'est un échec sur toute la ligne.
Ouais. Et ça fait déjà quoi, deux semaines, certains, là, l'espèce de trêve pour la guerre en Iran. Puis évidemment que depuis ce temps-là, les Iraniens ne sont pas assis en file indienne en chantant Kumbaya. Là. Ils se sont réapprovisionnés, puis pas à peu près. Là. Ça, c'est...
Ben oui, est-ce qu'on a d'ailleurs des informations là-dessus qui sont arrivées encore une fois il y a quelques jours. Encore une fois, les renseignements américains là, qui n'arrêtent pas de ça, il faut comprendre d'où ça vient. En passant, quand on vous dit les renseignements américains nous disent que c'est pas un communiqué de presse, là. C'est des fuites d'informations organisées et il y a une raison pourquoi. Les Américains sont extrêmement fâchés contre les Israéliens en ce moment, puis ils font tout pour essayer de montrer comment ça s'est passé, cette séquence-là, comment ils ont été entraînés dans ce conflit-là. Fait que là, on apprend des informations un peu embarrassantes, comme quoi, justement, les Américains ont déployé plus de leurs missiles défensifs à défendre Israël qu'Israël en a déployé pour se défendre elle-même.
Oui.
Tu sais, ça vient pas... C'est difficile de comprendre ça. Ensuite, on réalise que... C'est le point que je trouve fascinant. L'Iran a déjà commencé à reconstruire des drones. Non seulement les usines sont encore intactes, on a relancé la production. Hey, on parle d'un pays qui est sous embargo total. Ouais. On n'a plus accès à aucun marché international via l'importation, exportation. Les routes terrestres sont limitées. Rien que de s'approvisionner pour fabriquer des drones, ouais, c'est un coup
ben,
de maître.
En même temps, moi, j'ai juste Pékin dans la tête. Il y a clairement quelque chose. Puis en même temps, ben, Trump nous dit que Pékin, c'est nos alliés. Ça, c'est... La Chine a toujours une espèce de rôle de pivot deux faces. Là, il y a comme ouais. Ça, c'est plus dur. Là, quand tu veux te faire une équipe et que tu sais jamais l'autre joue dans quel bord il
ben
joue.
Oui. C'est la Chine joue une game de brillant en ce moment. Je ne sais pas si tu as vu le meeting entre Trump et Xi Jinping la semaine dernière. C'était vraiment la culmination de cette humiliation des États-Unis, d'abord par l'Iran, puis conséquemment ensuite par la Chine. Où là, tu voyais essentiellement les Chinois qui... Ils n'ont aucune influence sur l'Iran. Ils ne peuvent pas ouvrir le détroit d'Hormuz. C'est pas vrai qu'ils ont la capacité de modifier. L'Iran n'ira pas contre ses propres intérêts. Elle mène une guerre pour elle-même. Ouais. D'ailleurs, on a vu des navires chinois être pris dans le détroit. Mais quand même, Xi Jinping entretient la fausse croyance de Donald Trump comme quoi c'est lui qui run l'Iran. Et là, il se met à faire à extraire des concessions des États-Unis sous la promesse de peut-être essayer d'aller convaincre les Iraniens de rouvrir le détroit. Fait que la Chine joue son rôle comme si elle était, dans le fond, la parraine de ce conflit. On va voir ce qu'on peut faire pour t'aider. Qu'est-ce que tu peux me donner en échange? Et là, Trump sort ensuite publiquement pour s'embarrasser avec Taïwan puis avec 1 million d'autres dossiers parce qu'il pense que la Chine va l'aider. Fait que là-dessus, c'est comme je te dis, la Chine joue une game absolument fascinante. Elle a l'air d'avoir compris que c'était une question de temps. Elle a juste besoin d'être patiente. Les États-Unis se déconstruisent d'eux-mêmes.
Mais c'est ce qu'ils font depuis toujours, être patient. Et ça paye. Je veux dire, depuis c'est quoi le début de la nouvelle Chine, quoi, dans les années 50-60? Et depuis ce temps-là, pas d'attaque, pas d'agressivité, ils font leur truc, ils font leur stratégie et ça fonctionne. La patience est payante pour la Chine. En terminant, Benjamin, est-ce que tu penses que Trump est réélu si c'est pas réglé? Et mettons, combien de temps tu lui donnes? Parce que les élections de mi-mandat, c'est à l'automne. Il y a encore quelques mois. Si ça se règle pas, d'ici combien de temps tu penses où ce sera un non-retour, là?
Honnêtement, il aurait fallu que ce soit réglé il y a 2 mois.
Déjà trop tard.
Pour éviter d'encaisser des grosses conséquences au niveau des élections. Parce que là, premièrement, le monde va s'en souvenir. Là, on s'entend, c'est pas très loin. Ouais. Deuxièmement, les conséquences énergétiques vont encore se faire sentir à ce moment-là. T'sais, si on parle d'un cycle qui va prendre au moins 5 à 8 mois, si c'est pas 2 ans, avant qu'on retrouve des prix d'énergie un peu plus compatibles avec les stocks avant la guerre. Là, en ce moment, ce qu'on voit, c'est que tu as beaucoup d'installations qui ont été détruites, beaucoup de navires qui sont encore pris dans le détroit. Ça va prendre du temps avant de relancer la production dans beaucoup de pays. Fait que même juste ça, là, si on veut imaginer un scénario dans lequel Trump aurait pu tout laisser ça derrière, il va quand même y rester l'inflation endémique, il va quand même y rester l'augmentation des prix de l'énergie.
Il ne pourra pas régler les conséquences.
Non, exactement. Fait que ça, il va les traîner pour la fin de son mandat, je pense. Puis au bout de la ligne, les gens, ce qu'ils vont se rappeler, j'ai l'impression, c'est pas tellement l'Iran, c'est pas tellement la gaffe, c'est pas tellement l'improvisation, autant que le mensonge éhonté que d'avoir promis d'amener jamais les États-Unis dans une nouvelle guerre, encore moins au Moyen-Orient, pour aller s'enliser dans un conflit comme ça. Après l'Afghanistan, après l'Irak, c'était ça le pitch de Trump. No more wars. Moi, je pense que c'est ça que les gens ne pardonneront jamais. Là.
Benjamin, merci beaucoup.
Merci beaucoup, JC.
Salut, bonne semaine, bye. Benjamin Tremblay, analyste géopolitique. Allez découvrir sa chaîne 7 jours sur Terre, c'est sur YouTube. Nous autres aussi, on est sur YouTube maintenant. Vous pouvez aller voir ça, Radio X sur YouTube. On est là. Vous pouvez voir Pat.
Oui, absolument, vous pouvez me voir. Vous pouvez voir Max aussi.
Et surtout Pat.
Ben non, mais surtout Max. Moi, il n'y a rien à voir.
On vient.
Ouellette. Vraiment, on s'accroche, là.
En direct.
On fait une petite pause, puis on revient dans pas long.
Radio X.